De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission spéciale Star Wars, l'ascension de Skywalker avec des goodies à gagner. Non, nous n'avons pas vu le dernier épisode de la saga Star Wars. En revanche, on a vu d'autres films. Bonjour Marine, bonjour Madu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, c'est quoi pour toi, Marine?
Alors, eh bien, pour moi, ce sont des films avec des femmes, hein, vraiment. Donc, c'est le nouveau film de Valérie Donzelli, Notre-Dame, et puis un film qui se passe à Rio de Janeiro, La vie invisible de Eurydice Gusmão.
Et puis toi, Manu?
Un film avec des hommes, notamment. The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese, donc diffusé sur Netflix. Et puis, je parlerai d'une... Alors, pas d'une reprise, en fait, hein, puisque c'est une vraie sortie, puisqu'il est inédit en salle. The Millennium Actress, un manga japonais.
Et moi, je vous parlerai d'un film avec un homme et une femme qui essaient de se quitter. C'est Après la nuit, du roumain Marius Holte à nous. Et puis, on parlera de quelqu'un qui a disparu. C'est Anna Karina. Ce sera l'occasion de faire un blind test. Or, on va pas... Enfin, si, on va sans doute deviner les titres des films, mais c'est aussi un moyen de, bien, d'évoquer toute sa filmographie à cette grande actrice. Ainsi débute Cinérama avec la nouvelle comédie de Valérie Donzelli, Notre-Dame.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Maud Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris.
Allez, dépêchez-vous!
Elle est architecte, mère de 2 enfants.
Salut!
Crayon!
C'est à cette heure-là que t'arrives?
9h, c'est pas 9h15.
Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain.
Quel con!
Maud Crayon donc, est une architecte d'une quarantaine d'années, un peu timide, qui se fait sans cesse rabrouer par son supérieur, un désagréable mal-alpha, et qui n'arrive pas à se séparer une bonne fois pour toutes de son ex-mari, qui continue d'envahir son appartement car il n'arrive pas à dormir seul. Comme si cela ne suffisait pas, elle se retrouve par un quiproquo magique à la tête d'un projet d'urbanisme ambitieux, puisqu'elle a la lourde charge de rénover le parvis de Notre-Dame de Paris, qui était encore entière au moment du tournage.
Mais vous êtes remis ensemble avec papa?
Parfois, on n'est plus avec quelqu'un.
De nuit, pas plus.
Et puis, on tombe enceinte de lui. Et puis, d'autres fois, on aimerait bien être enceinte de quelqu'un.
Salut, salut.
Mais on est déjà enceinte de quelqu'un d'autre.
Ah si, ah non, ah si, ah non, 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 non. Ah si, si.
Tu t'assures qu'il va partir?
Je crois qu'il faut que je m'installe ici.
Quoi?
C'est compliqué la vie des bobos parisiens. Après 4 films avec Jérémy El-Khaïm, Valérie Donzelli s'est enfin rendu compte qu'il était peut-être temps d'arrêter de faire des films avec son ex. Après La guerre est déclarée, un drame jamais pathétique hein, qui avait institué dans le cinéma français le style Valérie Donzelli, elle avait réalisé Main dans la main, une petite comédie un peu bancale, mais qui constitue le dernier rôle intéressant de Valérie Lemercier au cinéma. Et puis, Valérie Donzelli est passée au drame avec Marguerite et Julien, un vrai drame hein, sur l'inceste qui n'a vraiment pas fait l'unanimité. Dans Notre-Dame, elle revient à la comédie légère. Alors, vraiment très légère. Une comédie qui se voudrait aussi délicate qu'une bulle dans un verre de Spritz se bue sur une terrasse parisienne. La cinéaste se moque gentiment de la paranoïa sécuritaire qui, selon elle, défigure la capitale, du rapport à l'art contemporain et même de la politique. Son film est une fantaisie burlesque qui se réclame de la nouvelle vague. Mais alors, on a envie de dire qu'il s'en réclame un peu trop. Hein. Les références pleuvent à chaque scène, que ce soit par l'insert de carton façon cinéma muet, que ce soit à travers des passages chantés façon comédie musicale, des moments de comédie décalée, absurde. La réalisatrice a beau mettre au cœur de son film un personnage de mère célibataire on ne peut plus moderne, qu'elle interprète d'ailleurs elle-même, tout dans son film respire la nouvelle vague. Nouvelle vague qui aujourd'hui n'a plus rien de nouveau, hein, tant elle a été pompée et repompée. Dans Notre-Dame, tout est sautillant et plein de bonne humeur, mais étrangement, ça ne prend pas. Le film peine à nous emmener dans son univers loufoque de gentil bobo parisien. Si en tant que spectateur, on est totalement étranger au style de la nouvelle vague, eh bien on trouvera sans doute ce film extrêmement inventif et vivifiant. Sinon, bah, vous vous rendrez rapidement compte qu'il s'agit là d'un espèce de gloubi-boulga de référence pas très bien digérée. Reste quand même les comédiens. On est satisfait de constater le potentiel comique de Pierre de la Longchamp qui est enfin exploité ici. On retrouve également avec plaisir Bully Lanners, Claude Perron et le toujours très mal coiffé mais tellement talentueux Thomas Simeka.
Oui, Thomas Simeka qu'on voit dans de nombreuses comédies, souvent décalées.
Oui, souvent très absurde parce que ça lui convient très bien.
Effectivement, il a joué une petite tête d'ahuri, on peut dire. Allez, examen de passage aussi. Enfin, parce que là, Valérie Donzelli, effectivement, avait fait un véritable four avec son précédent film. Lui, Scorsese, il est passé du côté de Netflix. Donc voilà, de Hollywood à Netflix, comment ça s'est passé? Tu vas nous en parler maintenant, Manu.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Peu importe que vous l'ayez fait ou pas. En fait, ça ne change rien pour moi.
Oui, je sais.
Je suis ici pour vous défendre. OK?
OK.
C'est atroce, hein, mon version française. Hein.
Voilà, la voix de De Niro. Qui est plus...
De Niro habituel, mais l'autre, c'est un peu aussi les productions Netflix. Ils font pas très...
Ça va vite.
Ils font pas très attention au doublage. Enfin, voilà. Plus de 20 ans après Casino, hein, 96, hein, à mon avis, le dernier grand film de Scorsese. Scorsese revient donc au film de Mafia. The Irishman déploie sur une durée de 3h30 une fresque intime sur le crime organisé de l'après-guerre, racontée du point de vue de Frank Sheeran, ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu un homme de l'ombre, faisant le sale boulot auprès de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Alors, au service de la mafia, Frank, surnommé The Irishman, va devenir une sorte de protecteur de Jimmy Hoffa jusqu'à son assassinat. Le film retrace plusieurs décennies, panorama d'une histoire souterraine de l'Amérique où vont se croiser politiciens, syndicalistes et truands.
Frank Sheeran, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard?
Non.
Des infractions au code de la route?
Non.
Vous buvez au travail?
Non.
Vous n'avez frappé personne?
Au travail?
Oui.
J'ai pas l'impression.
Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino.
Comment ça va?
Salut, enchanté.
C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait, on était récompensés. Et ça se passera comme ça, qu'on le veuille ou pas, sans compter bon.
Peu m'importe que vous l'ayez fait ou pas.
En fait, ça ne change rien pour moi.
Oui, je sais.
Je suis ici pour vous défendre. OK?
OK.
Alors, Martin Scorsese délaisse son style clinquant et éreintant, quand même, du Loup de Wall Street au profit d'une mise en scène beaucoup plus sobre, convenant mieux à la tonalité de cette saga racontée en voix off par le fameux Irishman, vieux retraité, relatant l'histoire un peu misérable de sa vie. C'est la bonne nouvelle du film, hein, que d'abandonner une virtuosité de surface pour tenter de proposer une esthétique plus sombre et crépusculaire. L'absence d'enjeu et de progression dramatique s'avère par moments un choix subtil, laissant percer une émotion à travers ce portrait édifiant d'un homme au seuil de la mort qui a vu à peu près tout le monde mourir autour de lui, s'il n'a pas tué aussi ses proches, hein, puisque ça lui arrive. Alors derrière le grand sujet, hein, raconter une épopée américaine, Martin Scorsese livre également un bilan, une quête existentielle d'une sincérité désarmante, refusant la violence gratuite et les effets tape à l'œil. Loin de la production imposante attendue, bon, qui a tout de même coûté la bagatelle de 160 millions de dollars, hein, The Irishman prend les allures d'une touchante, confession, celle d'un artiste en fin de route confiant à demi-mot sa solitude dans un monde où tout va trop vite. Rarement Scorsese s'était mis autant à nu. Cette prise de risque ne s'accompagne pas, hélas, d'un traitement à la hauteur de l'ambition. Le scénario semble parfois phagocyté par des impératifs de production. Scorsese confond sobriété et épure avec paresse, enchaînant sans inspiration les champs contre champs fonctionnels baignant dans une photographie assez terne, alors typique des productions Netflix. C'est là où je pense que Netflix, les productions Netflix sont rarement à la hauteur de ce que l'on peut voir au cinéma, concernant les grands auteurs, hein, souvent. Alors, cette tragédie en mode mineur ressemble au final à un gros téléfilm bavard, avare en séquence spectaculaire. L'intention est louable, mais le métrage manque de souffle, juste jamais au niveau d'un scénario pourtant passionnant. Tout semble ramassé et triqué. Alors pire, là, le film devient gênant par ce choix curieux de rajeunir numériquement ces comédiens qui ressemblent à des momies figées dans le temps. Alors Robert De Niro, hein, il a un rictus, c'est le même, tout le long du film. Il ne fait quasiment rien, affichant la même expression du début à la fin, quel que soit son âge. Alors face à lui, Pacino, lui cabotine en revanche, dans le rôle de Jimmy Hoffa. Et sorti de sa retraite par amitié, Joe Pesci s'en sort mieux, hein, retrouvant un peu de la gouaille un peu joueuse de ses mémorables prestations dans Casino et Les Affranchis. Alors ce parti pris volontaire assèche totalement le film, hein, le rend même indigeste figeant à plusieurs reprises l'émotion. Et puis, c'est une mauvaise idée quand même de prendre un acteur qui a aujourd'hui, De Niro, il doit avoir 75 ans, hein, au moins.
Je pense.
Et de le faire rajeunir numériquement uniquement son visage et pas son corps. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un vieux avec une tête de jeune. Ça fait une drôle d'impression. On a vraiment l'impression de voir un dessin animé à des moments.
Ah bon. Ils ont coupé d'ailleurs la scène où il sort de la salle de bain. Hein.
Oui. Mais ils font bien. Hein. Alors la dimension du coup mélancolique, elle peine à nous émouvoir. Hein. C'est un peu dommage. Observer De Niro comme ça, rajeuni, se révèle une expérience assez terrible, presque pathétique. Scorsese rate son rendez-vous testamentaire avec la mort, très loin de ses réussites passées. Alors la réception critique positive me laisse un peu songeur, comme si personne n'osait vraiment dire du mal de ce qui pourrait, à mon avis, être le dernier film de Scorsese.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que les gens, en fait, n'osent pas parce que c'est un monstre sacré du cinéma et c'est comme s'il était totalement intouchable.
Mais par le passé, il a eu des films qui ont été critiqués. Enfin, il n'a pas reçu tout le temps un accueil ultra favorable. Là, je pense que c'est
Mais plus les gens sont vieux et moins on dit du mal d'eux.
Sauf s'ils sont has-been depuis très longtemps.
C'est vrai.
Par exemple, De Palma, on n'hésite pas à fracasser ses derniers films.
Et ça, ça te fait mal.
Et ça me fait de la peine.
Évidemment. Alors, on a demandé à Scorsese pourquoi il n'avait pas tourné son film en série, hein, parce que tu l'as dit, plus de 3h30. Alors, il a dit que c'est justement le jeu de l'accumulation qui faisait le sel de son dernier film. Et voilà, l'accumulation des détails pour une fin visiblement assez étonnante.
Alors, il y a ça, et puis les gros studios ont tous refusé le film aussi, hein.
Ah ça, mais ça, il l'a pas dit. C'est la version officieuse que tu connais. Allez, on passe maintenant à la séquence hommage de cette émission. Tu évoquais la nouvelle vague marine tout à l'heure. Là, il en est pleinement question avec Anna Karina. On joue au blind test.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Anna Karina est morte à 79 ans. C'est près de 50 films et 2 réalisations en 73 et 2007. La majorité de ses films, enfin, on la connaît surtout avec Godard, dont elle a partagé la vie. Et ce blind test se veut surtout un petit clin d'œil à sa filmographie. C'est très facile, on commence.
Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quel film ?
Pierrot le Fou, 65.
Oui.
Elle n'a pas fait de musique après ça, rassurez-moi. Elle n'a pas,
si.
Elle a pas
si,
chanté.
Elle
était chanteuse.
Wow. J'ai un album avec Catherine aussi. Oui. J'ai composé entièrement un de ses albums.
Dernièrement, oui. Oui. Allez, tu es éliminé de. Allez, deuxième extrait.
Tu préfères manger du poisson ou de la viande potinée ? Émile !
Du poisson.
Et qu'est-ce que tu aurais préféré si tu avais voulu de la viande ?
Je sais pas, du veau.
Et si tu avais voulu du bœuf au lieu de veau, tu aurais choisi un beefsteak ou un rôti?
Moi, un beefsteak.
Et si tu m'avais dit rôti, tu l'aurais aimé bien cuit ou très saignant?
Très saignant.
Eh bien, mon chéri, tu n'as pas de veine parce que justement, mon rôti de bœuf est un peu trop cuit.
Tout ça pour ça.
Une femme est une femme,
oui.
Godard, de nouveau.
Et on écoutait donc Anna Karina et Jean-Claude Brialy. À noter que là, on entend son accent, elle est née au Danemark. Allez, troisième extrait.
J'étais plus jolie que mes sœurs. Mes parents en étaient affligés. Je les avais 15 ans. Un jeune homme courtisait ma sœur. Je m'aperçus que je lui plaisais. J'avertis ma mère. 4 jours après, on me mettait au courant. J'y suis restée 2 ans, jusqu'à ma profession. On dit que mon père, ma mère sont des gens honnêtes. Ils sont aimés, respectés. Alors, pourquoi avec moi ?
Alors, il y avait un gros indice, ça a été trouvé.
La religieuse Jacques Rivette.
Et c'est le cas le plus retentissant de censure d'État qui ait jamais frappé en France la création cinématographique. Ça, c'est un article du Monde de mai 2018 hein, pour à l'occasion de la sortie de la copie restaurée de ce film de Jacques Rivette, donc de 66, effectivement. Quatrième extrait en musique.
Les hommes, ils aiment les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme à la froideur. Un homme sans femme, il reste en panne.
Mais toujours la femme arrive près d'un mari qui est comme la pluie. Froide et la plus chaude des brunes, près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes, froide et la plus chaude des blondes, près d'un aïe ronde, près d'un mari comme tout le monde.
La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir.
Alors beaucoup de comédiens dans ce film de 1963. Il y a Francis Blanche, il y a Guy Bedos, il y a Jean-Paul Belmondo, il y avait aussi Anna Karina, c'est Dragé au poivre de Jacques Baratier, que tu n'as pas vu alors.
Je n'ai pas vu.
Ah, ben alors, ce sera l'occasion de le revoir pendant ces fêtes. Dernier extrait.
Mais qu'est-ce que je dois faire exactement ?
La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation.
Est-ce que c'est important d'être belle ?
La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes. L'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits.
Voilà, gros indice. Donc c'est trouvé.
Alors après avoir dit 5 fois vivre sa vie, je suis enfin tombé juste.
Oui, film de 1962 de Jean-Luc Godard, encore une fois. Un film vraiment qui m'a marqué, moi. Oui, très intéressant. Voilà, ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie d'Anna Karina. Direction le Brésil avec une fresque familiale.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui, on poursuit avec La vie invisible de Eurydice Gusmão. Alors déjà, merci au réalisateur du film, Karim Aynouz, d'avoir choisi un titre aussi long. Moi, quand je suis arrivée à la caisse, je me rappelais des 2 premières syllabes, donc c'était compliqué au niveau crédibilité, mais on lui pardonne, car il a fait un bon film. Nous sommes en 1950 à Rio de Janeiro, au Brésil, au cœur d'une famille dont les 2 filles sont inséparables, Guida et Rebelle. Cœur d'artichaut, elle aime la danse, l'aventure. Eurydice rêve d'intégrer le prestigieux conservatoire de piano. Elles sont à l'âge des premières amours et à l'âge où les passions sont plus fortes que tout, mais elles vivent aussi à une époque eh bien, où le patriarcat broie littéralement les femmes, leurs ambitions et leurs rêves. Concrètement, lorsque vous étiez quand même une femme dans les années 50, bah, vous deviez obéir à votre père, puis ensuite à votre mari, et vous n'aviez pas vraiment d'autre choix que d'être une mère au foyer. Guida, qui est éprise de liberté et d'un beau marin grec, s'enfuit avec lui, laissant sa sœur désespérée. Lorsqu'elle quitte finalement son amant et qu'elle revient chez ses parents, enceinte, son père la jette à la rue et il ment à sa sœur Eurydice en cachant son retour. Pour les 2 sœurs, qui vivent dorénavant dans la même ville mais sans le savoir, un long échange épistolaire va commencer. Elles vont s'envoyer toute leur vie durant des lettres qui seront cachées par leurs parents. Le film suit leurs 2 destins qui s'entrecroisent et se poursuivent en parallèle. La vie invisible de Eurydice Gusmão, qui a gagné le prix Un certain regard cette année à Cannes, est présenté comme un mélo tropical. Alors il est vrai que le climat tropical, eh bien, il y a un peu le 3e personnage dans le film. Et puis il y a une vraie signature visuelle, quelque chose de très moite, comme si la caméra était sans cesse pleine d'humidité. Si le film est un mélo, eh bien c'est un mélo tout en sourire, sans larmes. Les larmes sont toujours hors champ et les 2 actrices sont particulièrement solaires. Je m'attendais pour le coup à beaucoup d'émotions, mais en fait c'est un mélo très sobre. Du coup, est-ce vraiment un mélodrame ? C'est une vraie question rhétorique. Le fait d'avoir situé l'action dans les années 50 n'est pas anodin, puisque c'est l'époque justement du mélodrame hollywoodien. Et puis concrètement, il s'agit aussi d'une époque où les technologies sont très limitées, où l'on peut vivre toute sa vie dans la même ville que quelqu'un d'autre sans jamais se croiser. Tout est plus dramatique. Donc, le film est un enchaînement de rendez-vous manqués. Il y a même un côté tragédie grecque dans la relation de ces 2 femmes, qui devraient être plus fortes que tout. On est devant une histoire d'amour contrariée, une histoire d'amour entre 2 sœurs qui vont payer très cher leur envie de liberté, puisqu'elles vont se heurter de façon implacable au patriarcat et aux obligations sociales. Pour être honnête, j'ai été surprise, mais très agréablement surprise, hein, qu'il s'agisse d'un homme à la réalisation, car le sujet est très habilement abordé. Le réalisateur Karim Aynouz me semble-t-il connaître en France avec ce film, mais il a vraiment déjà une carrière conséquente derrière lui, puisqu'il a été déjà entre autres le scénariste du film Avril Brisé de Walter Salles. Il a reçu pas moins d'une 20aine de prix dans sa carrière, et je ne pense pas me tromper en disant qu'à mon avis il s'agit d'un cinéaste à suivre, enfin en France du moins, puisqu'il est déjà très connu au Brésil.
Tu rappelles le titre, puisque maintenant tu l'as bien a pris.
La vie invisible de Ridis Gusmao.
Voilà. C'est en salle depuis le 18 décembre. Autre film en salle depuis cette date, c'est Après la nuit de Marius Olteanu, une nuit dans Bucarest.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Que diriez-vous de vous faire un film roumain pour les fêtes ? Ne tombons pas dans le cliché. Hein. Il faut admettre que le cinéma roumain est varié. Il ne faut pas imaginer qu'on a toujours affaire à des drames. On a pu voir ces dernières années Au diable Staline, vive les mariés, excellente comédie de Horatiu Malaele, que je recommande à tous, ou encore Le trésor de Corneliu Porumboiu. D'ailleurs, on attend le prochain film de ce réalisateur, Les Siffleurs, qui va sortir en janvier prochain, et qui n'est pas une comédie mais un thriller policier avec une certaine forme de légèreté. Ce qui est certain, c'est qu'on est loin du drame social. Le film roumain proposé pour ces fêtes a de quoi surprendre. Il s'agit de Après la nuit, donc de Marius Olteanu, qui, pour grossir le trait, hein, nous parle des compromis induits par l'amour. Mais le réalisateur n'en reste pas à hauteur de couple et de sentiments. Il s'empresse aussi de sculpter la société roumaine, ou plus largement la société des hommes. Le film est programmatique. Hein, il s'articule en trois parties. Une partie pour Dana, une autre pour Arthur, son compagnon, et une troisième intitulée Les monstres. C'est d'ailleurs le titre original du film qui a été gommé au profit donc de Après la nuit. Bon, ce qui n'est pas mentir, hein, puisque les deux séquences où l'on voit le couple séparé se déroulent la nuit à Bucarest, le moment des retrouvailles au Roland Monstrueux, lui, se déroule en pleine journée. Dana et Arthur, donc, ont la quarantaine, ils sont mariés depuis près de 10 ans, mais quelque chose ne va plus. Le film débute avec un long travelling sur un quai de gare, mais un très très long travelling, qui nous emmène auprès de Dana, qui doit rejoindre son domicile. Mais ce n'est pas aussi simple. Arrivée devant son immeuble, elle a beaucoup de mal à descendre du taxi, au point que le chauffeur est pris pour un psychothérapeute. Et l'image qui est un carré, hein, comme sur les anciennes télévisions, enferme davantage encore cette femme dans cet espace clos qu'est le taxi. Et à certains égards, eh bien, c'est une métaphore d'une conscience étouffée et d'une vision morcelée. Les personnages ne voient pas ce qui est hors cadre.
Et tu fais ça? Quand
m'as sonné, m'am gândit que tu es là. Tu es là avec moi.
Très étrange, parce que je n'ai pas réentendu Dépêche Mode dans la bande annonce, dans le film.
Ça se passe souvent comme ça, oui.
Ouais. Alors, ça ne va pas mieux donc du côté d'Arthur, qui ne rentre pas non plus chez lui, préférant se rendre chez un homme rencontré par le biais d'une appli. De cette séquence naît une forme de comédie, non sur le sujet de l'homosexualité, très peu traité dans le cinéma roumain, mais sur les protagonistes de la rencontre. L'amant d'un soir est si agaçant qu'on a beaucoup de peine pour Arthur. Ce qui importait ici au réalisateur roumain, c'était de montrer la manière dont les homosexuels roumains empruntaient sans s'en rendre compte les normes hétérosexuelles et vivaient selon leurs règles, car ces deux hommes ont chacun une autre vie dans les bras d'une femme. Arthur est partagé donc entre son amour des hommes et sa relation conjugale. Avec un tel mensonge, on ne s'étonne pas que le dernier chapitre s'appelle Monstres. Mais les monstres, ce ne sont pas ces deux individus qui se demandent les raisons qu'ils ont de rester ensemble ou de se quitter, mais plutôt les autres. Une fois que le couple est réuni, l'image qui était en 4 tiers s'élargit. C'est une vraie image cinéma. Cette fois-ci, ça prend tout l'écran. Mais ce n'est pas synonyme de liberté pour autant. Car ce sont d'ailleurs, sauf à la toute fin, les intérieurs qui sont privilégiés dans ce film. Alors, au travers d'une visite chez une grand-mère qui se mêle de tout, d'un baptême où toutes les femmes sont enceintes, d'un voisin intrusif, voilà jeter le couple dans la marmite de la société avec ses codes et l'attente de ceux qui la composent. Dans un dernier élan, le réalisateur va tenter de faire s'expliquer ses personnages, tenter de comprendre ce qui fait qu'un couple reste soudé et sauve les apparences. Après la nuit de Marius Olteanu est un objet formel, pas si bavard, qui, à mon sens, aurait gagné à être projeté à un autre moment que celui des fêtes. On s'emballe avec un joyau de l'animation nippone, enfin sur les écrans Millennium Actress.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors, scandaleusement inédit depuis sa réalisation en 2001, seulement édité en catimini en DVD, Millennium Actress sort enfin en salle dans une copie restaurée, permettant ainsi de découvrir l'une des œuvres matrices, non pas d'un des grands noms de l'animation, du manga, mais d'un cinéaste tout court, disparu prématurément en 2010 à l'âge de 47 ans. C'est Satoshi Kon, éclipsé en son temps par la reconnaissance mondiale de Hayao Miyazaki et dans une moindre mesure aussi Takahata ou Otomo. Satoshi Kon est sans doute l'un des formalistes les plus passionnants du Japon. Millennium Actress prolonge les thématiques de Perfect Blue, thriller schizo auscultant la société du spectacle sous la double influence de De Palma Argento, en les appliquant à un tout autre genre, le mélodrame. Cohn poursuit sa réflexion sur le réel et l'imaginaire qui s'entrecroisent pour créer une sorte de réalité subjective vertigineuse en l'appliquant à une histoire bouleversante que n'aurait pas renié un Wong Kar-wai. Cette obsession sur la perception rejoint aussi l'univers de Philip K. Dick, qui est l'un des écrivains préférés de Satoshi Kon, sauf que chez ce dernier, il n'est pas question d'altération du monde tel qu'il est dans un but précis organisé par un tiers, mais de plonger dans la psyché et l'inconscient d'un personnage qui réinvente sa propre réalité. Alors deux journalistes de télévision, dont un ancien assistant de studio, se rendent chez Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma japonais dans les années 40 à 60. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle vit aujourd'hui recluse à la campagne. L'ancien assistant est un admirateur inconditionnel de l'actrice, l'ayant rencontré auparavant sur les plateaux. Il lui remet une clé que Chiyoko avait perdue 30 ans auparavant. Elle replonge dans ses souvenirs et raconte son histoire, cette quête amoureuse passée à rechercher un étrange inconnu, un peintre constamment en fuite qui lui a un jour remis cette clé en lui faisant la promesse de la revoir. Alors, le fil conducteur d'un récit gigogne entremêlant les espaces-temps avec une virtuosité inouïe est bien cette clé. Le film raconte en fait le désir absolu d'une femme de chercher inlassablement son amant et non de le trouver. De cette vision proustienne, Satoshi Kon en tire un millefeuille visuel et narratif d'une richesse inépuisable, ne brillant pas par son animation, que certains risquent de trouver sommaire, mais par l'inventivité d'une mise en scène fascinante, foisonnant d'idées grâce à la seule force d'un montage exceptionnel, enchevêtrant à chaque fois le passé et le présent, le réel et la fiction, intégrant l'influence évidente d'un Alain René dans le cadre d'un film d'animation pour adultes, mais qui reste malgré tout très abordable. La dimension expérimentale de Millennium Actress est tout entière au service d'une émotion à fleur de peau faisant exister pleinement des personnages animés. Les deux reporters sont immergés dans le passé de l'héroïne. Ils participent pleinement aux péripéties qu'elle a vécues tout au long de sa vie mouvementée, traversant l'histoire politique et sociale du Japon, mais aussi de toute l'histoire du cinéma japonais. Kon brise la linéarité classique du biopic romanesque en multipliant les allers-retours, les interactions entre les personnages issus d'époques différentes, les événements fantasmés ou bien réels. Le film provoque une sorte de délice de la confusion, un envoûtement constant ne laissant jamais le spectateur récupérer ni souffler, le maintenant dans un état flottant proche d'une sorte d'hypnose. C'est tellement beau aussi graphiquement. Alors pas tant l'animation qui peut paraître un petit peu, je disais, sommaire, mais c'est tellement beau visuellement qu'il ne faut pas rater, je pense, ce petit chef-d'œuvre d'un des grands noms. Et je conseille aussi, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres Satoshi Kon, d'aller jeter un œil à sa série qui est proche de David Lynch, Paranoia Agent, et puis Tokyo Godfather aussi.
Ah oui, Tokyo Godfather, effectivement. Donc Millennium Actress, donc c'est une sortie presque originale, puisque voilà, c'est un vieux film.
Il n'est jamais sorti de toute façon.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Les Misérables, Parasite et Douleur et Gloire sont dans la course aux Oscars. Et le film Les Misérables, donc, du réalisateur français Ladji Lee, va retrouver sur son chemin deux autres gros prétendants qui étaient aussi à Cannes comme lui. C'est la dernière ligne droite pour les nominations aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, dont la sélection a été annoncée, c'était lundi 16 décembre. Alors parmi les 10 œuvres dévoilées par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, qui permet les prestigieuses récompenses, eh bien 5 seront finalement retenues dans la liste des nominations. Et on aura un aperçu de ces 5 prétendants le 13 janvier, quant à la 92e cérémonie des Oscars. Elle se tiendra évidemment à Los Angeles et ce sera le 9 février prochain.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure !
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura l'occasion de faire le bilan de l'année 2019 avec nos choix, et puis on retrouvera aussi des films dans l'actualité.